nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Foyer, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui inaugurez notre première émission, notre émission Focus. Alors avant de commencer, rappelons que vous êtes agrégé de droit et diplômé de l'Académie de droit international de La Haye. Vous avez exercé de nombreuses fonctions politiques en occupant notamment la place de ministre de la Justice sous le gouvernement de Georges Pompidou, c'était entre 1962 et 1967, ainsi que ministre de la Santé publique dans le gouvernement de Pierre Messmer entre 72 et 73. Pendant cette même période, vous exercez parallèlement les fonctions de député du Maine-et-Loire. Et puis, vous ne cesserez jamais d'enseigner dans les facultés de droit, que ce soit à Angers, Poitiers, Lille ou encore Paris. Depuis 1984, vous siégez à l'Académie des sciences morales et politiques, dans la section législation, droit public et jurisprudence. Et depuis 1997, vous présidez la fondation de l'Institut Charles de Gaulle. Et j'ajouterai que c'est bientôt votre anniversaire, je crois.
Je suis né le 27
avril 1921.
Ça remonte à un passé très lointain.
Donc, vous allez avoir, on peut le dire, 84 ans.
Exactement.
Et vous vous portez comme un charme. Alors, d'où vous vient cette vitalité, monsieur le ministre Jean Foyer?
J'en sais rien. Je la dois probablement à mes parents. C'est un héritage. Ma mère a vécu jusqu'à 94 ans.
Ah oui, effectivement, on vit longtemps chez la famille Foyer. Alors, quel est le premier événement que vous avez vécu et que vous souhaitez nous faire partager aujourd'hui?
Oh bien, écoutez, je ne sais pas si c'est un événement, parce que ça n'a rien de tout à fait extraordinaire, et ça concerne un individu, c'est-à-dire moi-même, qui était un individu parfaitement lambda. Ben, je dirais que c'est le premier événement, c'est mon entrée à la faculté de droit de Paris.
C'était en quelle année?
Ça s'est produit à une date très lointaine, c'était en 1938. Et ça s'est produit un 14 novembre. À cette époque-là, l'année universitaire commençait assez tard. Elle commençait, on avait conservé le rythme des compagnies judiciaires d'ancien régime. Et la rentrée se faisait à la Saint-Martin d'hiver, c'est-à-dire à partir du 11 novembre. Et alors, je rentrais le 14 novembre à la faculté de Paris. J'ai eu une première journée qui finalement a déterminé mon orientation définitive après quelques hésitations. À cette époque-là, les étudiants de première année étaient enseignés dans un amphithéâtre, qui méritait son nom d'ailleurs, parce qu'il était en demi-cercle, etc.
Et vous étiez nombreux?
Oui, il était nombreux. Alors, au début de l'année, c'était difficile d'y rentrer. Parce qu'il y avait une seule porte, à deux battants, qu'à un moment donné, la pariteur ouvrait, on se pressait. Et au premier cours, j'ai pas pu entrer. Au deuxième tour, j'ai réussi à entrer. C'était un cours d'économie politique qui était fait par un très grand économiste qui s'appelait François Perroux, mais qui avait un langage qui était un peu celui de la philosophie allemande.
C'est-à-dire?
C'était très abstrait. Si bien que mes camarades et moi, nous parlions à son propos de la spécificité de la formulation perruxistique. Alors, ce premier cours qui avait lieu de 11h à midi m'a un peu découragé. Et pendant quelques heures, je me suis demandé si j'avais pas fait fausse route.
Et vos collègues aussi?
Je connaissais personne. Il faut dire que j'arrivais dans cette faculté. Moi, je venais de ma province natale, car je suis angevin, dans une faculté où je ne connaissais pas âme qui vive. Mais entre midi et 2h, je me suis interrogé en me disant, est-ce que tu n'as pas fait fausse route? Est-ce que c'est vraiment cet enseignement qui te convient? Puis l'après-midi, j'ai assisté à un cours de droit civil. Alors j'ai trouvé que c'était lumineux et j'ai, de ce moment-là, opté pour le droit privé. Puis alors après, mes études juridiques ne se sont pas mal passées, je dois le dire, sans trop me vanter. C'est-à-dire que j'ai accumulé les prix au concours de la faculté et les mentions très bien aux examens. De telle sorte qu'à l'époque, il existait à la faculté de droit de Paris deux prix qui avaient été fondés par un personnage dont j'ignore totalement qui il était, qui s'appelait Goulencourt. Il y avait un prix Goulencourt qui était accordé au meilleur étudiant de licence de sa génération et un prix de Goulencourt de doctorat qui était accordé au meilleur étudiant de doctorat de sa promotion. Or, il se trouve que j'ai obtenu à la fois successivement le prix Goulencourt de licence et le prix Goulencourt de doctorat. Et j'ai réussi des performances d'obtenir un examen oral qui comportait 4 interrogations, de le passer avec 4,19 et des choses comme ça.
Ah oui, donc un titre honorifique qui vous a déjà mis en lumière.
De telle sorte que j'ai vraiment été un très bon étudiant à cette époque-là. Alors ça a déterminé mon orientation, mais qui a demandé un certain temps à se réaliser. Et après ça, à partir de ce moment-là, je me suis dit que je pouvais préparer l'agrégation. C'était pas tout à fait cette idée-là qui m'avait amené au départ à faire des études de droit, parce que j'étais un peu prédéterminé à faire du droit, étant donné que je suis le fils d'un notaire et le petit-fils de deux notaires. Alors, il y avait donc un certain héritage juridique, j'ai quelques gènes juridiques sans doute, mais alors je me suis dit qu'après tout, je pouvais faire mieux que de faire cette pratique, et que je pouvais enseigner le droit, et je trouvais une chose extraordinaire, et ce que j'ai finalement réussi à faire, et à faire même pendant longtemps. Mais entre-temps, j'avais un peu virevolté en faisant d'autres choses, et j'ai perdu pas mal de temps.
Virevolter alors, c'est-à-dire
C'est-à-dire que je suis atteint d'une certaine infirmité. Il y a une tentation à laquelle je résiste difficilement. C'est-à-dire que quand j'entreprends un travail, et puis quand je suis dans ce travail-là, et que brusquement je suis incité à m'occuper d'une autre chose, que tout d'un coup je trouve prodigieusement intéressante, il arrive que je laisse la première et que je la continue beaucoup plus tard, de telle sorte que j'ai mis beaucoup de temps à terminer ma thèse de doctorat.
Vous aviez plusieurs projets en fait en même temps.
Oh, puis je faisais autre chose. Et puis finalement, j'ai passé à la thèse de doctorat et aussitôt après, je me suis présenté au concours d'agrégation et j'ai été agrégé. Alors, je le suis toujours, bien entendu, c'est une qualité éternelle. Et j'ai enseigné le droit dans un certain nombre de facultés et je dois dire que c'est une activité que j'ai vraiment beaucoup aimée. Alors, à l'heure actuelle, eh bien, je suis à la retraite. J'ai même prolongé mon enseignement bien au-delà de la retraite. Parce que quand j'ai été mis à la retraite, c'était en 1989, le lendemain de mon admission à la retraite, le président de Paris 2, mon ami, le professeur Dury, me téléphone en me disant qu'il ne trouvait personne pour me remplacer dans un cours que je faisais déjà depuis 20 ans à la faculté sur le droit des brevets d'invention et me demande si je ne consentirais pas à le refaire encore une année, tout en me précisant que je devrais le faire gratuitement parce qu'il ne pourrait pas me rémunérer. Je lui dis que ça m'était parfaitement égal et que j'acceptais tout à fait de faire ce cours. Je ne l'ai pas fait seulement une fois, je l'ai refait pendant 10 ans, jusqu'au jour où, en 99 ou en 2000, mon épouse a trouvé que j'en avais fait suffisamment comme ça et elle m'a fait la guerre à tel point que j'ai renoncé à continuer. Mais sans quoi, si j'avais continué, je le ferais peut-être encore et je le ferais toujours avec plaisir.
Donc vous avez enseigné jusqu'en 2000. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'enseignement ?
Écoutez, ce qui est agréable, c'est de faire de la communication, de faire passer ses idées, et d'expliquer, de faire comprendre, etc. Et finalement, de convaincre l'auditoire auquel vous vous adressez. Alors c'est un exercice que j'ai adoré. Il faut d'ailleurs éviter une chose, à mon avis, il faut éviter de lire son texte. Il faut pas lire, il faut regarder l'assistance. Et quand vous avez le sentiment que votre phrase n'a pas bien passé, que certains d'entre eux n'ont pas compris exactement ce que vous disiez, mais il faut recommencer, il faut la reprendre.
Donc vous étiez un orateur dans les amphithéâtres.
Est-ce que c'était de l'éloquence ? Je ne sais pas si c'est très éloquent. Je crois que j'ai quand même réussi assez bien à faire passer ce que je voulais faire passer et à expliquer ce que je voulais dire.
Alors, revenons quelques années en arrière. Vous êtes encore étudiant, vous n'êtes pas encore enseignant. Comment se sont passées vos années d'étudiant ? Vous êtes arrivé à Paris, vous connaissiez du monde ?
Je n'y connaissais pas grand monde, mais enfin, j'ai fait des connaissances à la faculté, bien entendu. Mais seulement, j'ai connu une période qui n'a pas été une période des plus charmantes et des plus souriantes, parce que à partir de l'automne de 1940, c'était la période d'occupation.
Oui, alors justement, comment vous l'avez vécu ?
Une période d'occupation qui a été finalement assez désagréable, parce qu'il faut, on mangeait extrêmement mal à cette époque-là. À Paris, c'était affreux. Vous savez que l'un des fonds de la nourriture à cette époque, c'était le topinambour et c'était le rutabaga, qui sont quand même pas des légumes délicieux. Et puis d'autre part, il y avait des problèmes de chauffage. Alors, j'ai travaillé pendant des heures à la faculté de Paris, dans la, des journées dans la bibliothèque de la faculté de droit de Paris, et quand elle n'était pas chauffée du tout, il y a eu des hivers qui ont été très rudes, l'hiver 40-41, l'hiver 41-42, ben, on gelait de froid dans cette bibliothèque. Puis alors, à partir d'un certain moment, à la faculté de Paris, on s'est mis à exécuter des actions de résistance. Elles ont pas été héroïques, mais enfin, elles étaient quand même, je ne pense pas tout à fait inutiles. On travaillait d'ailleurs en liaison avec un certain nombre de professeurs. Parce qu'il y avait dans le corps de professeurs de la faculté de Paris, il y avait des professeurs qui incitaient à la résistance. Il y en a qui ont été très courageux. Par exemple, le professeur Henri Mazot, qui enseignait le droit civil, lorsque le gouvernement de Vichy a institué le service du travail obligatoire qui obligeait les jeunes de certaines classes d'âge à aller travailler en Allemagne, le professeur Mazot, du haut de sa chaire de doctorat, a déclaré que c'était un devoir de ne pas y aller pour ne pas travailler pour l'ennemi. Bon, non, il y avait des gens très bien à cette époque-là. Alors, à cette époque-là, on faisait des choses, on distribuait de la presse ou de la littérature clandestine. Et puis, dans un cagibi de la faculté de droit de Paris, on avait monté une officine de fabrication de fausses cartes d'identité. Alors, ça marchait très bien, d'ailleurs. On s'était procuré des modèles de cartes. L'un d'entre nous avait piqué à la préfecture de police un timbre humide de l'amiral Barre, qui était le préfet de police de Vichy, qui permettait que nous apposions sur ces cartes de visite. Le père d'un d'entre nous, qui était Pascal Arrigui, était inspecteur de l'enregistrement, qui nous alimentait en timbres fiscaux, et on faisait d'excellentes cartes d'identité en essayant de faire naître nos clients, si j'ose dire, parce que c'était gratuit ce que nous faisions, dans des communes dont les registres de l'état civil avaient brûlé au cours des opérations de mai-juin 40, etc. etc. Enfin, on s'est livré à ces activités-là, en même temps que d'essayer de noyauter les institutions de jeunesse que le gouvernement de Vichy avait essayé d'instaurer.
Vous n'avez jamais été inquiété ?
Oh ben, vous inquiétez, certains d'entre nous l'ont été. Ben, l'un d'entre eux dont je vais vous parler tout à l'heure, mais enfin, je m'en suis toujours tiré. Je suis jamais allé au service du travail obligatoire. J'ai, bien entendu, j'étais réfractaire. On appelait ça comme ça à l'époque, réfractaire au service du travail obligatoire. Et j'ai même été, pendant la semaine de la libération de Paris, j'ai même été FFI dans une unité dont le commandement était exercé par un de mes vieux camarades, qui s'appelle Jean-Baptiste Biaggi, et qui a même été député dans la première législature de la Ve République, et qui était un garçon qui était d'un courage extraordinaire. Il avait reçu une balle dans le poumon, une balle dans le ventre, pendant la campagne de mai 40. Il s'en était remis. Ensuite, il a été arrêté par les Allemands à cause de ses activités résistantes. J'ai passé ensuite avec sa sœur un après-midi à déplacer ses papiers, à les camoufler. Et puis, il a été expédié en Allemagne, mais il s'est évadé du train qu'il transportait, et je l'ai abrité et logé pendant quelques jours, tout à fait à la fin de l'occupation, mais j'essayais de le faire tenir tranquille, mais j'arrivais pas à l'empêcher de sortir. Et alors il avait ensuite constitué un groupe d'FFI dans lequel il m'avait embrigadé. Enfin, voilà quelques souvenirs de cette période.
Merci Jean Foyer d'avoir passé ce quart d'heure avec nous. On se retrouve la semaine prochaine dans Focus pour aborder un autre fait marquant de votre vie. Merci et au revoir.